Amen, Seigneur de tout. J'espère que Jésus, ce matin, est le Seigneur de toute votre vie. Toute votre vie, et qu'il n'y a pas personne d'autre qui vient faire interférence ce matin. Merci, les gars. Merci, l'équipe. Si jamais il y en a qui avaient commandé le livre la semaine dernière, ou ceux qui en voudraient, 60 jours pour voir l'invisible, il reste encore 4 volumes en arrière. Donc, allez voir Manon en sortant, ceux qui sont intéressés. Et là, ce matin, pas parce que je vais faire la publicité de livres, mais j'étais tellement béni. Ce matin, quand je suis arrivé, parce que le sujet qu'on va parler ce matin, je crois que c'est un sujet qui peut totalement changer votre vie, qui peut changer ta vie ce matin. Ta vie en tant que chrétien de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans de vie chrétienne, parce que qui croit qu'aujourd'hui, même après 40 ans de vie chrétienne, il y a des choses qu'il faut qu'il soit changé dans nos vies? Hein? Ah oui, je vois des têtes, oui, absolument. Hein? Je vois des mains levées après 30 quelques années, 25 ans. Il y a des choses qu'il faut qu'ils soient changées. Puis il y a des choses qui, après 5 mois, 6 mois de vie chrétienne, qu'il faut qu'ils soient changées. Et je ne vous compterai pas une tranche de vie, mais je vais juste vous lire quelque chose ce matin. J'ai sorti ce livre-là que j'ai lu en 2001. Juste un peu avant que les tours jumelles tombent, ça s'appelle « Comme Jésus ». Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce livre-là? C'est un livre qui a été écrit par Max Lucado. Puis cette semaine, en finissant mon message, puis écoute, Alain, merci pour les chants. Il y a des paroles qui sont là, qui vont aller vraiment avec le message ce matin. Merci, Rubin, le texte que tu as lu ce matin. J'ai dit, Rubin, il va prêcher mon message ce matin. J'ai dit, Seigneur est vraiment là ce matin. Je vais juste vous lire quelque chose ce matin. Parce que ça s'appelle « Comme Jésus ». Et vous allez voir mon titre ce matin. Tout va être dirigé sur Jésus ce matin. OK? Vous êtes prêts? Écoutez bien. Là, je vous pose une question. Et si Jésus prenait votre place le temps d'une journée? OK? Imaginez-vous, là aujourd'hui, vous allez passer votre journée. Premièrement, merci d'être là ce matin, malgré la température. Moi, j'avais peur de me lever ce matin avec... déjà la grosse glace et ainsi de suite, mais je vois le groupe ce matin. Merci d'être là et préparez-vous peut-être pour demain ou peut-être un autre matin, mais OK. Imaginez-vous que si Jésus prenait votre place le temps d'une journée. Imaginez un instant que 24 heures durant, Jésus se réveille dans votre lit. Écoutez bien, c'est important là. Imaginez un instant que 24 heures durant, Jésus se réveille dans votre lit, porte vos chaussures, vivre chez vous et adopte votre emploi du temps. Imaginez que votre patron, votre mère, votre conjoint, votre conjointe, même vos douleurs se fassent siennes. Il n'y a qu'une seule condition. Rien dans votre vie ne peut changer. Ni votre santé, ni votre environnement, ni votre emploi du temps, ni vos problèmes. La seule différence permise est que Jésus garde son cœur à lui pour vivre dans votre vie. Votre cœur en congé, votre vie est maintenant dirigée par celui du Seigneur Jésus. Vos agissements sont donc dictés par ses priorités, ses passions et son amour. Quel serait le résultat? Votre entourage, est-ce qu'il remarquerait une différence? Et votre famille, votre conjoint et votre conjointe, est-ce qu'ils remarqueraient une différence? Vos enfants, est-ce qu'ils remarqueraient une différence? Est-ce qu'ils vous trouveraient changé? Vos collègues de travail percevraient-ils une autre chose en vous? Qu'en sera-t-il des moins nantis? Les traiteriez-vous de la même façon si Jésus était avec vous? Et vos amis, vous trouverait-il plus joyeux, plus compatissant? Vos ennemis, recevrait-il plus de miséricorde à la part du cœur de Jésus que du vôtre? Et vous, comment vous vous sentiriez? En quoi que cette greffe affecterait-elle votre niveau de stress, vos sautes d'humeur ou votre colère? Auriez-vous le sommeil plus serein, un regard différent sur les couchers de soleil, sur la mort, même sur les impôts? Se pourrait-il que vos besoins en sédatifs et aspirines diminuent? Et vos réactions dans les bouchons de circulation, est-ce qu'ils changeraient? Maintiendrez-vous ce que vous aviez prévu de faire dans les prochaines 24 heures? Arrêtez-vous un instant et pensez à votre emploi du temps. Les obligations, les rendez-vous, les loisirs, les engagements. Si Jésus prenait possession de votre cœur, est-ce que les choses changeraient? Si Jésus prenait la possession de mon cœur totalement, est-ce qu'il y a des choses, moi, dans ma vie qui changeraient? Mon emploi du temps. Est-ce qu'il y a des choses qui changeraient? Ce que je regarde à la télévision. J'aimerais vous inviter ce matin à continuer à réfléchir. Parce que ce qu'on va regarder ce matin, tout a rapport avec notre attitude. L'attitude. Il y a quelqu'un qui a dit, un motivateur, qui a dit un jour, « Ton attitude va te permettre de prendre de l'altitude. » Il y a quelqu'un qui disait ce matin, « Pourquoi il y en a qui sont encore au sol? » Parce qu'ils ont une attitude vraiment négative, une attitude défaitiste. Là, je trouve ça intéressant parce que ça allait vraiment avec le message ce matin. Mettez au point le zoom de votre imaginaire jusqu'à ce que vous ayez une image nette de Jésus dirigeant votre vie. Maintenant, figez l'image. C'est comme si j'arrivais ce matin, moi là, puis je prenais mon iPad, puis je prendrais une photo de chacun de vous, de où vous êtes aujourd'hui. Puis demain, avec Jésus, comment ça serait? Imaginez maintenant, ce que vous voyez n'est ni plus ni moins qu'est-ce que Dieu désire pour vous. Qu'est-ce que Dieu désire pour vous? Il veut que vous ayez la pensée qui était en Jésus-Christ. C'est ça qu'on va regarder ce matin. On a parlé, et là je vais rentrer dans le texte après, mais on a regardé, parce que pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, et s'il y en a qui s'en souviennent un petit peu la semaine passée, on a parlé d'humilité. On a parlé d'humilité la semaine dernière. Écoutez bien, le manque d'unité dans l'Église est toujours une menace, un danger, une ruse du diable qui cherche à détruire le peuple de Dieu. S'il n'y a pas d'unité dans une église, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas cette humilité-là, il y a un danger, puis le diable le sait. C'est ça qu'il veut, lui, détruire. Il a parlé la semaine dernière, il veut détruire des couples, il veut détruire ta vie, détruire ton couple, détruire tes enfants, détruire ta famille, puis détruire l'église. Puis il veut détruire ta relation avec les gens avec qui tu travailles. Mais il y a un remède. Il y a un remède à ça où on ne veut pas laisser de place à l'ennemi, et c'est l'humilité. L'humilité. Paul est dit aux Philippiens 2:3, « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous. » Comment je vois mon frère? Comment je vois ma sœur? Est-ce qu'elle est supérieure à moi ou c'est moi parce que j'ai plus de connaissances, j'ai plus de vie chrétienne, je suis plus grand que lui, je suis plus fort, je suis meilleur, je suis bon? C'est moi ou c'est mon frère, ma sœur qui est meilleur? Regardez les autres comme étant meilleurs, plus haut que vous. Il y a quelqu'un qui disait que notre cœur orgueilleux nous dit plutôt, c'est moi qui suis supérieur, c'est moi le meilleur. Hein? Toi, tu commences dans la vie chrétienne. Non, toi, tu n'as pas ci, toi, tu n'as pas ça. Puis je vous l'ai déjà dit, hein? Ça a été sur ma vie pendant longtemps. Toi, tu es ci, tu es ça, tu ne pourras pas faire ci, tu ne pourras pas faire ça. Le diable, c'est ce qu'il veut, détruire votre pensée, détruire votre vision de ce que Dieu est. Pourquoi? Parce que l'unité, elle est précieuse pour Jésus-Christ. L'unité dans un couple, dans une famille, l'unité dans l'Église, elle est importante pour Jésus. C'est important pour Jésus d'avoir une Église unie ensemble. Pas une Église où on va se chicaner pour rien, pour des choses qui ne valent rien. « Comment est-ce qu'on peut atteindre une véritable unité spirituelle? Puis regardez, vous reviendrez la semaine dernière en rapport avec Philippiens 2. 5 moyens. Rejet d'un esprit de parti. Hey, c'est moi! Non! Renoncer à de vaines gloires. Humilité. Au lieu de considérer ses propres intérêts, Paul dit. Puis très souvent, on considère nos propres intérêts. C'est moi qui ai raison. Puis combien de fois je le vois dans les couples? Combien de fois je l'ai vu dans mon couple? C'est moi qui ai raison. Non! On peut-tu s'asseoir et on va discuter ensemble? On va discuter ensemble. Et Paul dit considérer aussi ceux des autres. Et là, je m'en vais à mon texte ce matin. Souvenons-nous, j'ai terminé avec une phrase la semaine dernière et je la répète ce matin. Souvenons-nous, ensemble, nous vaincrons, divisés, nous serons vaincus. Ensemble, on va vaincre. Ensemble, on va être capable d'avoir la victoire. Ensemble, on va être capable d'avancer et d'aller vers ce que Dieu veut. Mais si le peuple de Dieu est divisé, on va être vaincu et le diable va avoir gagné. Non! Parce que le diable, on est déjà dans l'équipe vainqueur. Puis là, je le répète ce matin, nous sommes dans l'équipe vainqueur. Hey, c'est pas merveilleux, on est dans l'équipe vainqueur. On est avec Christ. Tournez avec moi dans vos Bibles. J'espère que vous avez vos Bibles ce matin. On continue dans cette série de Philippiens. Vivre. J'espère que vous vivez ce matin. J'espère que Christ dans votre vie ce matin vous amène plus près de lui, plus près de Dieu, plus près de sa présence. Philippiens 2, verset 5. La semaine passée, c'était « Unité dans l'humilité » et ce matin, Philippiens 2, verset 5. Paul y dit, toujours dans le même contexte, hein, relisez 1 jusqu'à 4 et ce matin. Paul y dit « Ayez en vous » Paul s'adresse à l'Église ce matin, il s'adresse à chacun de nous. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. » comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé. Certains disent il s'est vidé totalement de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Et s'il y en a encore ce matin qui doutent que Jésus était vraiment Dieu, vraiment homme, il est ici ce matin. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est mort sur la croix pour toi. Jésus est mort sur la croix pour chacun de nous ce matin. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Le texte n'est pas là ce matin. Souverainement élevé. Il lui a donné le nom qu'on a chanté ce matin. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse. Confesse quoi? Que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père ce matin. À la gloire de Dieu le Père ce matin. Et mon titre, voilà la diapo. L'attitude. Hop, c'est pas la bonne. OK, elle n'a pas mis la bonne. OK, il y a une petite erreur. Non, parce qu'il y a eu une petite erreur sur la diapo. C'est parce que vous voyez Éphésiens en bas, mais c'est Philippiens. C'est marqué l'attitude de Jésus-Christ, mais c'est avoir l'attitude de Jésus-Christ. Parce que je ne veux pas qu'on s'arrête, nous, à comment Jésus était. Je veux qu'on puisse s'arrêter ce matin à nous, à toi ce matin en tant que chrétien. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, en 2019, d'avoir l'attitude de Christ dans ma vie, d'avoir l'attitude de Jésus? Comment Jésus, et si vous ne connaissez pas ce livre-là, à un moment donné, il parle du cœur de Jésus. Okay? Il parle de la main de Dieu. Il parle de comment Jésus pardonnait, comment Jésus aimait. Puis c'est ce qu'on va regarder ce matin ensemble au travers de ce texte-là. L'Évangile. Depuis qu'on a regardé Philippiens, l'Évangile, c'est quoi? L'Évangile est tourné vers les autres. L'Évangile n'est pas tourné vers moi-même. L'Évangile, Jésus a toujours été porté vers les autres. C'est ce qu'on a vu dans le texte. Si tout le monde, si chacun de nous estimait les autres supérieurs à soi, au final, le monde serait bien traité. Je saurais comment traiter mon frère. Je saurais comment traiter ma sœur. Je saurais comment traiter mon prochain, mon voisin. Je saurais comment traiter mon épouse, mes enfants. Je le saurais. Regardez bien, je vais juste... C'est valable que le texte appelle prochaine diapo. Tu peux les mettre prochaine diapo, pareil. Je vais vous lire dans 2 Corinthiens 21, le verset 5. 2 Corinthiens 21, verset 5, il dit « Que votre attitude... » C'est intéressant parce que il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » 2 Corinthiens 21 dit « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Que mon attitude soit identique. Identique, ça veut dire quoi? Pareil. Comme Jésus. Identique à Jésus-Christ. Sommer dit, tendez à vivre ainsi entre vous, car ce qui convient quand on est en amour. Ça, c'est ma voie d'excès. Hier, j'étais à l'extérieur puis pour un 70e anniversaire et je me suis couché à 1h du matin et levé à 4h et ma voix... Mais, Seigneur, c'est ta voix à toi. C'est pas la mienne, c'est la tienne. Sommer dit, « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Si on est unis ensemble à Christ, voici ce que Dieu nous demande comment vivre. » Parole de vie dit, « Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis à Jésus-Christ. » Français courant dit, « Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. » Si je connais Jésus-Christ comme mon Sauveur, le Seigneur de ma vie, si un jour j'ai donné ma vie à Dieu, voici la façon comment je dois me comporter. Paul dit aux Philippiens 2:5, « Ayez pour l'estime, parole vivante, écoutez bien, ayez pour l'estime que l'on se doit en Christ et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle. Est-ce que vous avez besoin d'un modèle ce matin pour la façon de me conduire? Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Wow! Et ma question pour vous, quelle est la seule chose sur laquelle vous avez le contrôle à 100%? Y a-t-il des choses dans votre vie que vous avez contrôle à 100%? 100%! Vous voyez, des fois, il y a des gens qui ont toutes sortes de raisons. Hein. J'ai pas de contrôle là-dessus. J'ai pas de contrôle sur ma colère. J'ai pas de contrôle sur mon manque de discipline. J'ai pas de contrôle sur la nourriture. J'ai pas de contrôle sur ci. J'ai pas de contrôle sur ça. Mais écoutez bien ce matin, la seule chose sur laquelle j'ai 100% où je peux avoir le contrôle, savez-vous c'est quoi? Mon attitude. Hein? Mon attitude! Oui, oui. Votre attitude. Mon attitude. Notre attitude. Notre attitude. Et la phrase vous allez l'entendre ce matin, « Votre attitude déterminera votre altitude. » On a vu tantôt « Vole comme l'aigle ». On a-tu chanté ça dans le jeu? « Vole comme l'aigle », hein? On s'en souvient quand j'ai prêché sur l'aigle? On va arriver à la... On est à la 6. « Vole comme l'aigle ». Est-ce que je suis un petit moineau? Ou un petit poussin qui reste au sol, qui n'est pas capable de voler, m'emprisonner dans une cage où je vais être comme un aigle. Votre attitude va déterminer votre altitude. Puis ça, c'est important ce matin. Important pour chacun de nous ce matin. Et le grand défi du verset 5, il est suivi du merveilleux passage de 6:11 où on voit qui était Jésus. Parfaitement homme et parfaitement Dieu. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. Puis, vous savez quoi? Si j'ai donné ma vie à Christ, si j'ai Jésus comme mon sauveur ce matin, possibilité de vivre ça ce matin. Est-ce qu'on peut dire ce matin, soyons francs là, dans notre cœur, que notre attitude est tout le temps bonne? Hein? Que notre attitude est tout le temps avec le sourire? Que ce soit, quel que ce soit de ce que j'ai lu tantôt pour être comme Jésus, est-ce que mon attitude est tout le temps bonne? Est-ce que mon attitude est tout le temps bonne vis-à-vis un frère, une sœur? Il y a un pasteur qui disait un jour, il dit, j'étais dans une réunion de prière, puis il dit, j'écoutais quelqu'un prier, puis il dit, et là, il dit, je l'écoutais prier, puis je dis, aïe, 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 quelle sorte de prière. quelle sorte de qu'est-ce qu'il dit là, ça n'a pas de bon sens. Puis vous savez quoi? Il dit, j'ai changé mon attitude vis-à-vis de cette personne-là. Parce qu'il dit, je ne savais pas pourquoi il priait comme ça. Il dit, ça a changé tout dans ma vie. Il y a plein de situations qu'on vit, puis tout peut changer autour de nous, juste par notre attitude. Je parlais du trafic tantôt, je parlais du travail, je parlais de nos ennemis. Hein? Est-ce que ça va tout le temps bien avec nos ennemis? Juste dans notre couple. Là, je suis béni ce matin, mon épouse n'est pas là. Je pourrais parler ce matin. Mais non! Mais juste dans notre couple, sérieusement, juste dans notre couple, il y a plein de choses qui pourraient changer. Hein, des petites affaires qui ne sont pas placées comme on voudrait ou ce qu'on a dit, puis ainsi de suite. Là, on est porté, hey, c'est moi qui ai raison. On veut toujours gagner. Hein? Même si on est dans l'équipe du vainqueur, on veut toujours gagner. Mais des fois, il faut apprendre à s'humilier un petit peu. Tu as raison, chérie. Tu as raison. Des fois, ce n'est pas facile de dire ça. Tu as raison. Tu as raison. Confrontés aux pires situations, on réagit différemment les uns les autres. Même certains serrent les dents tellement fort. D'autres s'effondrent en gémissant. Ou d'autres restent calmes. Pourquoi? Parce qu'ils placent leur confiance en Dieu. Tout est une affaire d'attitude. Écoutez bien, j'ai trouvé ça intéressant. Le psychiatre autrichien Viktor Frankl, que vous connaissez sûrement tous, lui, il a survécu. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il a survécu à l'enfer d'un camp de concentration nazi. Et il a expliqué. Puis ça, je pense que on n'a pas survécu au niveau des nazis, quand vous connaissez l'histoire un peu, mais j'ai trouvé ça intéressant. Dans l'un de ses livres, « Dernière liberté, qui reste l'homme d'une telle situation », il dit, « Tout prisonnier incapable de supporter plus longtemps les réalités de la vie du camp pouvait se réfugier dans une autre vie, celui de son âme, lui offrant accès au domaine spirituel, la seule chose que les SS étaient incapables de détruire. » Vivre dans ce domaine le rendait plus fort à nouveau, capable de s'adapter à la situation et augmentait ses chances de survie. Quelqu'un a écrit, si vous n'aimez pas une situation, changez-la. Si vous ne pouvez la changer, changez d'attitude. S'il y a une situation dans laquelle que tu es, ton travail, change d'attitude. Change d'attitude. Tu vas voir, tout va changer autour de toi. Votre comportement dépend des attitudes. Quel que soit mon comportement, ça dépend de mes attitudes. Décidez aujourd'hui de faire des choix positifs face aux situations peut-être les plus négatives de votre vie. Vous savez, on entend positif, négatif. Regardez ce que ça fait le négatif. J'ai déjà dit à un moment donné, les enfants, ils reçoivent tellement de paroles négatives dans leur vie. Ne demandez pas pourquoi des fois l'attitude d'un enfant est si difficile, tellement négatif envers eux autres. Paul nous demande, Paul dit à moi ce matin, Luc, ne nous laisse pas. Demande de nous laisser transformer. Seigneur, viens transformer mon cœur, viens transformer mes pensées, viens transformer mon attitude, Seigneur, à l'image de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour lui ressembler. Seigneur, change mes comportements. Il y a juste toi qui peux le faire. Change mes comportements. Change mon comportement, Seigneur. Pensez aux autres, c'est le cœur même d'une vie comme celle que Jésus a menée. Quelle sorte de Jésus? Quelle sorte de vie que Jésus a menée? Comme Jésus. Que vous puissiez repartir ce matin et dire, Seigneur, moi, ma vie veut être comme Jésus. Comme Jésus. L'apôtre Paul a dit aux Romains, ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. De quoi je me nourris? De quoi je nourris mes pensées? De quoi je nourris mes yeux? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je lis? Il y a des gens qui disent qu'ils passent plus de temps à lire le Journal de Montréal que de lire la Bible. Moi, je veux vous encourager à lire la parole de Dieu, à prendre la parole de Dieu comme votre nourriture. Il y a un pasteur qui a dit un jour, si je reviendrais à mes 22 ans, après 40 ans de ministère, qu'est-ce que je ferais? Je prendrais plus de temps dans la parole. plus de temps dans la parole. Je comprends pas, c'est pas grave. Lis. Je comprends rien. Lis, Saint-Esprit, viens m'aider. J'ai besoin de comprendre, Seigneur. J'ai besoin de comprendre. Tu veux que ton épouse change? Change. Tu veux que ton mari change? Change. Tu veux que ton patron change? Change. Change d'attitude. Tu veux qu'un frère ou une sœur dans l'église change? Prie pour lui. Prie pour elle. Prie pour elle. Prie pour lui. Vous savez, le christianisme n'est pas une philosophie. Le christianisme, c'est une relation et une vie tournée vers les autres, comme Jésus. Comme Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui n'a point regardé à lui-même, mais qui s'est offert en sacrifice. Pensez aux autres, c'est le cœur même d'une vie comme celle de Jésus. N'oubliez pas que votre attitude détermine votre altitude. Wow! Je pourrais dire aussi ce matin que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Faisons un examen de conscience ce matin. Est-ce que mon attitude est digne d'un chrétien? Est-ce que mon attitude est digne d'un pasteur? Est-ce que mon attitude est digne d'un diacre? Est-ce que mon attitude est digne d'un frère et d'une sœur en Christ? Comment est mon attitude? Vous savez, je l'ai dit souvent, lorsque j'arrive le dimanche matin à l'église, est-ce que je me suis préparé? Est-ce que j'ai préparé mon cœur? Est-ce que j'ai préparé à rencontrer un tel que peut-être j'ai de la misère? Je trouvais ça intéressant ce matin, Ruben. Prenez le temps de vous connaître les uns les autres. Prenez le temps de savoir les noms d'un frère ou d'une sœur. Prenez le temps. Là, ce matin, je veux juste vous exhorter. Prenez le temps peut-être d'arriver un petit peu plus tôt d'avance le dimanche matin. Prenez le temps d'arriver un petit peu plus tôt. Prenez le temps après. Je sais que des fois, on est pris. On a toutes sortes de raisons, toutes sortes de situations. On a des familles, des enfants. Tu ne sais pas ce qu'on vit à la maison. C'est dur. Il y a quelqu'un qui disait c'est toujours la faute de l'autre. Hein? On est toujours en train, les hommes, on est toujours en train d'entendre dans la voiture, puis c'est les femmes qu'on attend après. Avez-vous déjà dit ça? Hein? Mais c'est pas vrai! Viens, chérie, je peux-tu t'aider ce matin? Je peux-tu aider au niveau des enfants? On va arriver plus tôt dimanche matin. On va prendre du temps avec la famille de Dieu. Hier, on avait un 70e. On était dans les Laurentides, puis ils nous demandaient, écoutez, le souper était à 7h30, puis on est arrivé à 4h. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui étaient là. Prenez le temps de se connaître. Il y a des gens que je ne connaissais pas. Prenez le temps de se connaître. Prenez le temps, arrivez plus tôt. Prenez le temps après. Moi, j'ai appris dans ma vie chrétienne, j'arrivais le premier, puis je partais le dernier. Ah, c'est plate, ça! Non! J'ai appris à connaître plein de gens. Plein de gens. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes important pour moi. Pourquoi j'arrive tôt le dimanche matin? Je veux prendre le temps avec les gars, les musiciens qui arrivent. C'est parce que je me fais payer un café le dimanche matin. Moi, c'est pour ça que j'arrive tôt. Non! Parce que j'aime ça. Pourquoi je pars le dernier? Je veux vous voir. Prenons le temps. Prenons le temps ensemble. Vous savez, l'attitude est un des facteurs les plus déterminants dans la réussite personnelle, autant professionnelle que familiale. La phrase que je vais vous dire ce matin est importante. Elle limite ou elle libère la puissance de Dieu dans votre vie. Il y a des gens qui limitent la puissance de Dieu dans leur vie à cause de l'attitude. J'ai dit à quelqu'un la semaine dernière, vous savez quelle la meilleure façon de voir l'attitude de quelqu'un? Surtout dans une église, enlève-lui son ministère. Tu vas voir qui il sert. Enlève le ministère à quelqu'un dans l'église pour X raison. Tu vas voir son attitude qui il sert. Est-ce qu'il sert Christ ou il servait ses propres intérêts? Pensez-vous un instant. Exemple, peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui a déjà dit, personne ne veut de moi. Personne ne s'intéresse à moi. Imagine maintenant si tu changes ton attitude et tu dis, Dieu sait, lui, qu'est-ce qui est bon pour moi. Peut-être que ce matin, il y en a qui disent, ah, « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, je prie, puis tu ne réponds pas. Pourquoi, Seigneur, tu m'as abandonné? Pourquoi tu ne pourrais pas dire à Dieu, « Je rends grâce, Seigneur, parce que toi, tu sais ce qui est mieux pour moi. » Je te rends grâce, puis je te dis, « Seigneur, merci, parce que toi, tu sais ce qui est bon pour moi, même si je ne l'ai pas. » Il y a quelqu'un qui disait, « Vous pouvez choisir d'être amer, inquiet ou même en colère. » Vous pouvez même choisir de vous réjouir parce que la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour ton bien. Quoi, ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Non, 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 Dieu, c'est... Non! Non, c'est pour ton bien. Pour ton bien. Est-ce que votre attitude est votre meilleur ami ou votre pire ennemi? Sérieux ce matin, là. Chacun de nous ce matin, comment est mon attitude? Comment était même peut-être votre attitude ce matin, juste pour venir à l'église? Peut-être il ne fait pas beau au matin, je ne sais pas. Peut-être. Moi, quand je suis parti ce matin, j'ai dit, Seigneur, merci, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de grêle, il n'y a pas rien. Mais là, je voyais tantôt, Seigneur, merci, parce qu'il y a des gens qui vont être là ce matin. Merci d'être là ce matin. Est-ce que ton attitude est ton meilleur ami ou ton pire ennemi? Écoutez bien ce que Jésus a eu une attitude incroyable face à l'opposition. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus a eu une attitude positive face à l'opposition. Il aurait pu facilement réagir négativement, céder à l'offense, manifester du mécontentement et de la rancune. Jésus a été rejeté, accusé injustement, jugé, condamné à tort devant une simulacre de tribunal. Le ressentiment, l'amertume, la haine aurait pu être là dans la vie de Jésus. Peut-être que c'est une question pour nous ce matin. Peut-être que tu as du ressentiment dans ta vie. Peut-être que tu as de l'amertume. Peut-être que tu as de la haine. Écoutez bien Jésus ce qu'il a fait. Son caractère pieux à lui, dans les ténèbres, il a étendu le pardon et l'amour complètement pour nous pardonner. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Apprenons à imiter Jésus. Attitude. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Si c'est quelque chose qui est difficile pour vous, venez dans la prière, tombez sur vos genoux ce matin. Dites, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il y a juste toi, Seigneur, qui peut changer mon attitude. Il y a juste toi, Seigneur, qui peut changer mon attitude entre un frère ou une sœur, entre mon conjoint, ma conjointe, mes enfants. Il y a juste toi, Seigneur, qui peut changer mon attitude. Il y a juste toi. Mais non, pas ça qu'on fait. Hey, ça, c'est bon pour elle. Hey, ça, c'est bon pour lui ce matin. Seigneur, ça fait longtemps que je prie qu'elle change son attitude. Ça, c'est bon pour elle ce matin. Non, c'est bon pour toi. Change ton attitude, tout va changer autour de toi. Je te le dis, faites le test. Seigneur, change mon attitude. Mais non, on ne veut pas changer. Hein, on chante un chant, mais on dit « Change mon cœur, Seigneur! » C'est-tu bon? Alain, c'est-tu bon? « Change mon cœur, Seigneur! » Hein? On chante ça à plein gosier, à pleine voix, « Change mon cœur! » Mais pas ça, Seigneur! Pas ça, Seigneur! Pas ça! Non! Oui, c'est ça. Oui, prends tout, Seigneur! Votre attitude va déterminer votre altitude. Seigneur, je veux m'envoler. Seigneur, je veux, comme j'ai lu tantôt, Seigneur, je veux que les gens voient qu'il y a quelque chose de différent dans ma vie. Seigneur, je veux que les gens voient qu'il y a quelque chose dans ma vie. Copain de travail. Hein? Dans nos milieux de travail. Qui travaille ici encore? Hein, des gens qui travaillent, hein? Vous travaillez tous avec des personnes qui sont fines, hein? Vous travaillez tous avec des boss qui sont les meilleurs. Hein? Hey, mon boss, lui, c'est le meilleur. Tu pries-tu pour ton boss? Tu pries-tu pour ton patron? Hein? Tu pries-tu pour ton patron? Tu pries-tu pour tel collègue de travail qui est difficile, peut-être? Mais non. Il ne changera pas. J'ai déjà compté, moi, un collègue de travail que jamais j'aurais pensé qu'il aurait changé. Jamais. Un dur de dur. Un dur qui s'est moqué de moi quand j'ai donné ma vie à Dieu. Il s'est emmené nous voir jusque dans les salles de toilettes pour voir si on était normal. Non, sérieux. Il voulait savoir si j'étais normal, parce que ce n'était pas normal que je parle de Jésus. Mais vous savez quoi? Lorsqu'il a rencontré Jésus sur son chemin de Damas, il a tombé en terre puis il a donné sa vie à Christ. Amen. Aujourd'hui, il est dans les églises puis il sert. Jamais j'aurais pensé ça. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Moi, j'aurais peut-être voulu qu'il change parce qu'il s'est tellement moqué de nous autres. Mais moi, j'ai changé mon cœur et j'ai appris à l'aimer tel qu'il était. Comme Jésus a fait avec nous. Jésus nous a aimés tel qu'on était ce matin. Donc, première partie ce matin. J'aurais pu continuer encore, mais on va aller vraiment là aussi où c'est important. Verset 6a. Existant en forme de Dieu. Quelle était la stature parfaite de Jésus-Christ? Jésus était Dieu. Et là, je ne veux pas rentrer ce matin, peut-être à un autre moment donné, mais vraiment dans un plus doctrinal. Mais ce qui est important de saisir ce matin, que autant Jésus était humain, Jésus était Dieu. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. Ah non, mais Jésus, il s'est servi de sa divinité. Non. Notre texte nous dit que Jésus, là je vais employer un mot ce matin, était de morphe divine, c'est-à-dire de nature, d'essence divine. Autrement dit, Jésus était Dieu, mais Jésus était aussi parfaitement homme, égal à Dieu. Égal à Dieu. Écoutez bien ce que Jean dit dans son épître, dans son évangile, Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et qui était cette parole? C'est Jésus. La réponse nous est donnée au verset 14. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole, c'est évidemment Jésus. La parole a habité parmi nous. La Bible nous montre que Jésus était là. Vous allez lire dans Colossiens où il dit que tout a été créé par lui, pour lui. Tout a été créé par Jésus, tout a été créé par Dieu. Jésus n'était pas une partie homme, une partie Dieu. Quand ça faisait son affaire, il était homme. Puis quand ça faisait son affaire, il était Dieu ou vice-versa. Le contraire, non. Regardez bien comment Jésus était. Puis ce qui est intéressant, c'est que pour montrer que Jésus était vraiment Dieu, regardez dans Jean 5. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Malgré qu'il était parfaitement homme, parfaitement Dieu, verset 7, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en venant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dépouillé voudrait dire aussi vider. Jésus, il s'est vidé totalement de sa divinité pour venir sur terre. Juste pour nous montrer comment Jésus était pleinement Dieu, pleinement homme. Écoutez bien, quand Jésus a été tenté dans le désert, il aurait très bien pu transformer des pierres en pain pour changer, pour pouvoir se nourrir. Il s'en est abstenu. Est-ce que Jésus aurait pu le faire? Oui, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Quand Jésus était Dieu, il aurait très bien pu connaître le jour ou l'heure de son retour. Qu'est-ce que Jésus dit? Je ne le sais pas, moi. Il y a juste le Père qui le sait. Lors de sa crucifixion, quand Jésus est mort sur la croix pour chacun de nous, est-ce que Jésus aurait pu descendre de la croix? Oui. Il aurait pu appeler une légion d'anges. Non. Parce qu'il fallait que Jésus meure sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout, se rendant obéissant, même jusqu'à la mort de la croix, la Bible a dit. 2 Corinthiens 8, 9 nous dit, il s'est dépouillé de richesses. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Savez-vous, vous êtes riche ce matin? Pas parce que vous avez gagné à la Lotomax vendredi. Non, vous êtes riche ce matin. Jésus s'est dépouillé totalement de toute sa divinité qu'il avait. Jésus s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé de ses richesses. Ce qu'on vient de lire dans 2 Corinthiens 8. Il y a quelqu'un qui disait, demandez à Bill Gates. Vous savez, Jésus, il avait toute la richesse dans le royaume, il s'est dépouillé de tout ça. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il y a quelqu'un qui disait, je disais ça cette semaine, il disait, demandez à Bill Gates. Demandez à Bill Gates de venir travailler dans une entreprise de charpente, de construction et de vivre au salaire minimum. Demandez au propriétaire d'Amazon qui vaut 130 quelques milliards. Y a-t-il des gens qui ont des liens avec... comment est-ce qu'il s'appelle le propriétaire d'Amazon? Jeff Bezos. Hey, Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour venir jusqu'à la croix pour nous. J'ai venu pour accomplir sa mission, il fallait qu'il devienne semblable aux hommes. Hey, vous pensez sérieusement ce matin? De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il a pour accomplir la mission de nous sauver, de vous sauver, de me sauver. Il fallait qu'il devienne semblable à moi. Dépouillé. Dépouillé veut dire vider, rendre vide. Christ a laissé toute forme d'égalité avec son Père. Il s'est vidé totalement de ça. Privé de force. Hein, vous pensez? Il a tout pouvoir et il s'est privé de ça pour nous. Il s'est privé de ça pour chacun de nous ce matin. Verset 7b, 7c, 8a, b, c, il s'est fait serviteur. Doulos, esclave. Jésus est venu pour servir et non pour être servi. Il s'est fait serviteur, devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié. La semaine passée, on a parlé d'humilité, l'unité dans l'humilité, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Wow! Ah, wow! Se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Savez-vous le verset qui me vient en tête? Éphésiens 5. Éphésiens 5, 25. Marie, m'adresse à vous les hommes ce matin. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Wow! Hey! Tu as déjà pensé d'être prête à mourir pour quelqu'un, toi? Prête à mourir pour ta femme? Serais-tu prête à mourir pour ta femme? Se rendant obéissant, c'est ce que Jésus a fait. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Écoutez bien. En parcourant la vie de Jésus, nous voyons qu'il a vécu comme un serviteur. Doulos, esclave. Lui qui pouvait naître dans un palais, assisté par les meilleures sages-femmes de l'époque, a choisi de naître dans une mangeoire, se rendant vulnérable. C'est ce que Jésus a choisi pour nous. Lui qui pouvait vivre dans un château, la Bible a dit qu'il n'avait pas lieu de reposer sa tête. Lui qui pouvait arriver à Jérusalem en Rolls-Royce, arriva sur le dos d'un âne. Lui qui aurait pu défier tous les hommes de la loi a choisi de se taire devant un tribunal qui voulait le condamner. Lui qui n'a jamais commis de faute a fini sa vie comme un malfrat cloué sur une croix au milieu de deux brigands. Lui qui avait tout le monde sous ses ordres, sous sa tutelle, est devenu serviteur. C'est ça Jésus. C'est ça que Jésus me demande d'être. Serviteur. Jésus n'avait qu'à claquer des doigts. Jésus, il aurait pu tout faire. Dans l'Église, Jésus n'aurait pas cherché les ministères visibles ou la reconnaissance. Trop d'hommes, trop de femmes cherchent la reconnaissance. Jésus est venu comme un serviteur, simple serviteur. Jésus est devenu semblable à nous. Pensez-y ce matin. Pensez-y ce matin. Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, il est devenu semblable à nous. Wow! Wow! C'est ça l'amour de Dieu, c'est ça l'amour de Christ. Il est venu semblable à nous. Jésus a hérité de toutes les toute limitation terrestre qu'il pouvait avoir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en tant que Dieu fait homme, son cœur était pur pour nous amener, nous, à lui. Jésus a donné sa vie. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Donner sa vie pour chacun de nous. Il s'est rendu, il s'est humilié lui-même devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est abaissé au point de nous donner sa propre vie pour nous sauver. L'obéissance que Jésus a eue, l'obéissance allait le conduire à la croix. Allait le conduire à la croix. Écoutez bien. Un chemin de renoncement à sa propre volonté. Renoncement. Qu'est-ce que Jésus enseigne? Dans les évangiles, Jésus dit renoncez à vous-même. Renoncez à vous-même. Un chemin qu'il ne souhaitait pas emprunter en raison de la souffrance qui l'attendait. Est-ce que Jésus savait la souffrance qui l'attendait? Nous, on ne veut pas souffrir. Jésus était prêt à donner sa vie pour ses ennemis. Est-ce que moi, je serais prêt à donner ma vie pour mes ennemis? Ouf, encore bien moins. Hein? Seriez-vous prêt à mourir pour un escroc? Seriez-vous prêt à mourir pour un voleur? Seriez-vous prêt à mourir pour un pédophile? Regardez ce qui se passe présentement, ce qu'on entend à la télévision. Jésus est mort même pour eux. Même pour ces prêtres pédophiles-là, Jésus est mort pour eux. Jésus s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la croix. C'est ça que Jésus a fait. C'est ça que Jésus a fait pour le pire des brigands. La pire faute peut-être que toi tu as fait, Jésus est mort pour toi. Jésus a choisi de prendre toutes nos saletés, toutes nos mauvaises pensées, toutes nos petites magouilles, tout notre égocentrisme, Jésus a choisi de prendre tout ça à la croix. Son sang a couvert tous les péchés de l'humanité, passé, présent, futur. C'est ça que Jésus a fait. Puis c'est ça que j'ai. Être comme Jésus, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que je serais prête, moi, à mourir pour quelqu'un qui a fait des abus comme ça? Imaginez l'amour de Dieu que Dieu a pour ces gens-là. Ces gens-là ont besoin de connaître Jésus comme sauveur personnel, comme Seigneur de leur vie. Potentiellement, le sacrifice de Jésus est suffisant pour sauver tous les hommes de la planète. Les pires bandits, les pires tueurs, les pires abuseurs, Jésus est mort pour eux. Moi, j'ai déjà entendu des gens, non, ça se peut pas que Jésus soit mort pour moi, j'ai fait trop de choses laides. Non! Peut-être que tu es ici ce matin, tu dis, non, Jésus, il peut pas être mort pour moi. Oui, 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 Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi, pour les pires choses peut-être que tu as faites. Et ma question pour vous ce matin, l'avez-vous reçu? L'avez-vous reçu? Avez-vous reçu cette grâce de Dieu-là? J'aimerais vous dire ce matin, ne repoussez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui s'est passé au travers de Philippiens 2? Philippiens 2, verset 9, l'exaltation de Jésus-Christ, la glorification. Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Jésus a dit dans Matthieu 16, « Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. » Wow! Dieu désire changer nos cœurs. Dieu désire changer ton cœur ce matin. Dieu désire changer ton attitude ce matin. Il ne veut pas juste changer notre extérieur. Il ne veut pas faire une chirurgie esthétique avec nous. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut transformer mon cœur. Dieu ne veut pas faire la plus belle transformation, que tu sois l'homme le plus beau, la plus belle extérieurement. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Dieu veut changer nos cœurs. Dieu veut changer mon cœur. Il désire nous rendre semblables à lui, à son image. La Bible a dit qu'on a été créés à l'image de Dieu. Hein? Il désire intervenir dès maintenant dans notre cœur d'une manière surnaturelle, comme seul lui peut le faire. Il y a juste Dieu qui peut changer un cœur. C'est une transformation de notre cœur pécheur à un cœur racheté, lavé, justifié par Jésus seul. Vous savez, il s'agit ce matin ici, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'une église quelconque, baptiste, pentecôtiste, mennonite, méthodiste, frère, puis nommez-les toute la gang, ni à un pasteur, mais au Dieu de la Bible, au Dieu vivant et vrai, au Créateur de l'univers, Jésus-Christ. C'est ça ce matin, puis c'est ça qu'on doit communiquer aux gens. Viens à Jésus. Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Viens! Il ne dit pas, viens à une religion. Il ne faut pas espérer être dans les cieux avec Christ si on l'a renié toute notre vie. Écoutez bien ce que Jésus dit dans Matthieu 7. Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je termine avec ça. Verset 10, 11. Tout genou fléchira devant lui. Tout genou va fléchir. On l'a chanté ce matin. Tout genou va fléchir devant lui. Moi, le premier. Peut-être toi, le deuxième, je ne sais pas. Mais chacun de nous va fléchir les genoux devant Dieu. Il dit même que toute langue, même la tienne, même la vôtre ce matin, même la langue de celui qui l'aura renié toute sa vie, même le diable devra confesser que Jésus est Seigneur. Il devra plier le genou devant sa majesté. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu as confessé que Jésus était Seigneur? Alors peut-être que ce matin, il y en a qui vont dire, ah, c'est injuste. C'est injuste. Hein? C'est injuste. J'inviterai les musiciens. Je vais terminer avec ça. Je termine avec cette petite histoire. On raconte qu'à la fin des temps, des milliards de gens se trouvaient dans une grande plaine devant le trône de Dieu. La plupart avaient peur de la lumière intense et brillante, mais quelques groupes discutaient avec indignation, critiquant violemment. Comment Dieu a-t-il le droit de nous juger? Comment Dieu sait ce que l'on souffre? Comment Dieu sait ce que je vis présentement? Moi, j'ai été envoyé dans un camp de concentration. On m'a violé, brutalisé, torturé. Moi, ils m'ont tué uniquement parce que j'étais un immigré, parce que j'étais noir. Ailleurs, il y avait un groupe d'enfants kurdes massacrés, puis des ouvriers qui avaient été écrasés par une grue. Comment Dieu as-tu pu faire ça? Chacun avait une plainte à déposer. Peut-être que ce matin, vous avez une plainte à déposer à Dieu. Comment est-ce que Dieu peut permettre tout ça? Il y a de la chance de pouvoir vivre là-haut dans le ciel où le mal n'existe pas. C'est vrai. Il ne sait rien de tout ce que l'homme est obligé de supporter. Hein, des fois, j'entends ça. Moi. Seigneur, tu ne sais pas ce que je suis obligé de supporter. Oui, Dieu sait. Dieu sait ce que tu souffres ce matin. Dieu sait tes douleurs. Dieu sait tes souffrances. Dieu voit ton cœur. Il y a juste lui qui le sait. Et là, ils sont tous là. Chaque groupe contestait, envoyait une personne choisie parce qu'elle avait le plus souffert. Un juif, un noir, quelqu'un d'Hiroshima, un enfant terriblement déformé, un prisonnier politique torturé. Ils étaient tous là, au beau milieu de la plaine, ils se consultaient. Finalement, ils se mirent d'accord sur le procès qu'ils allaient faire à Dieu. Imaginez, ils sont tous là. Tu vas voir Dieu, mais que j'arrive de l'autre bord. Tu vas voir, c'était bien ça. Finalement, ils se mirent d'accord sur le procès de ce qu'ils allaient pour faire Dieu. Avant que Dieu n'ait le droit de les juger, ils devraient souffrir. Dieu devrait souffrir ce qu'eux avaient souffert. La punition était donc envers Dieu. Dieu vive sur la terre. Dieu devait vivre. Dieu, il fallait qu'il comprenne que Dieu vit sur la terre comme un homme. Il doit être un juif. Il faut que l'on croit illégitime. Il faut qu'il fasse un travail si dur que sa famille le considère fou quand il le fait. Il faut qu'il vive dans un pays occupé où les droits de l'homme sont bafoués. Il faut qu'il soit trahi par ses ennemis. Il faut qu'il subisse un procès truqué où les accusations sont totalement fausses. Il faut qu'il soit jugé par un magistrat lâche. Il faut qu'il soit torturé ou qu'il meure horriblement. Il faut qu'il ressente l'affreuse solitude de la mort. Et à chaque partie de la sentence, la foule applaudissait chaleureusement. Mais quand le dernier eut fini, il y eut un grand silence. Plus personne ne bougeait. Car tout d'un coup, tous comprirent que Dieu avait déjà purgé sa peine. Dieu avait déjà purgé la peine. Mes amis, pour chacun de nous ce matin, si vous avez compris à quel point Dieu s'est abaissé, si vous avez saisi combien il nous a aimés en allant jusqu'à cette croix, alors vous ne pouvez que baisser la tête devant le tel sacrifice, devant une telle abnégation. Qui peut se comparer à lui ce matin? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qui a vécu ce qu'il a vécu? Souvenons-nous que l'unité ne peut se développer sans l'humilité. Que l'unité se développera au prix d'une abnégation de nous-mêmes, de notre position, de nos droits et de nos privilèges. Hey, j'ai des droits. Hein? J'ai des droits. Peut-être pensez-vous que vous êtes nul et que vous n'avez rien à apporter aux autres. Peut-être que c'est toi ce matin. Je suis qui, moi? Je suis un nul. À l'inverse, que l'Église ne vous apporte rien, qu'elle ne participe pas vraiment à votre épanouissement personnel. Peut-être vous plaignez-vous, peut-être. Moi, j'ai entendu des gens où ils se plaignaient de l'unité dans l'Église. Je ne le vois pas, moi, ici. Je vois une belle unité. On dit toujours que l'Église de contact, elle est reconnue comme une Église accueillante, une Église où on sent l'amour. Puis je rends tellement gloire à Dieu pour ça. Merci pour qui vous êtes. Merci pour ce à quoi Dieu nous appelle, à être une Église accueillante, remplie d'amour, d'accueillir les gens tels comme ils sont. Pour quelle raison je viens à l'Église? Pour quelle raison venir à l'Église le dimanche matin, tempête, glace, verglas, neige? Pour quelle raison venir à l'Église? Pour donner ou pour recevoir? Viens-tu pour chercher ton intérêt personnel ou celui des autres? Moi, je veux vous encourager ce matin, qu'on puisse s'encourager, Seigneur, à regarder l'autre comme Jésus. Comme Jésus. Voilà la diapo 17 ce matin. Considérez les autres comme étant plus excellents que vous-même. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Mais la prochaine. Apprenons à nous dépouiller, à nous vider de tout ce qui n'est pas de Christ. Si nous déclarons suivre Christ, nous devons aussi nous engager à vivre comme il a vécu. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Laisse cette diapo-là. Si nous déclarons suivre Christ, nous devons aussi nous engager à vivre comme il a vécu. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Je vais vous amener ce matin, on va s'amener ensemble, tout ensemble. Tout ensemble, le corps de Christ, la famille de Dieu. À dire, Seigneur, oui, je déclare vouloir suivre Christ. Nous engager à vivre comme il a vécu. Êtes-vous prêts ce matin à dire, moi, Seigneur, je veux vivre comme Jésus a vécu. Juste un moment seul avec Dieu ce matin. Un moment seul avec Dieu. Puis à travers de tout ce que j'ai dit ce matin, au travers de l'attitude qui était en Jésus-Christ, lui qui s'est dépouillé, lui qui était parfaitement homme, parfaitement Dieu, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, si nous déclarons suivre Christ, nous devrons, nous aussi, nous engager à vivre comme il a vécu. À vivre comme Jésus a vécu, être capable de pardonner, être capable d'aimer, être capable de prier pour un frère, prier pour une sœur, être capable de mettre cette loi de la réciprocité de toutes les dizaines de versets qui touchent les uns les autres, de porter les fardeaux, se réjouir les uns les autres, de s'exhorter, s'encourager les uns les autres, d'être capable de vouloir dire, Seigneur, je veux m'engager à vivre comme Jésus. Êtes-vous prêt ce matin à dire, Seigneur, moi, je lève ma main, je lève mes deux mains, Seigneur, je veux m'engager à vivre comme Jésus. À vivre comme Jésus. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Que ça puisse être dans notre cœur, que ça puisse être dans votre cœur, dans ton cœur ce matin. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Non, change son cœur à lui. Non, Seigneur, change son cœur à elle. Non, Seigneur, change mon cœur. Change d'attitude ce matin. Seigneur, moi, j'ai une attitude que je me lève à tous les matins, défaitiste, découragé. J'ai une mauvaise attitude envers mon épouse, mes enfants. Seigneur, change mon attitude ce matin. J'ai une mauvaise attitude quand je viens les mercredis, les samedis de prier, les vendredis qu'il va y avoir. Importe, Seigneur, change mon attitude, Seigneur. Je veux changer d'attitude. Je veux. Mais des fois, c'est parce qu'on ne veut pas. Est-ce que tu désires ce matin dire, moi, je veux avoir l'attitude que Jésus avait? Change mon cœur, Seigneur, car il t'appartient. Change mon cœur, Seigneur, ce matin. Juste quelques secondes de silence, seul avec Dieu ce matin. Si la parole t'a parlé ce matin, si tu as entendu cette, pas juste ma voix ce matin, mais la voix de Dieu qui dit, regarde ce matin. Sans aucun jugement, Jésus ne regarde pas à ça. Au contraire, Jésus veut t'amener ce matin à vouloir dire, garde, émette-moi. Émette-moi, Seigneur, puis je te demande pardon. Viens ce matin, peut-être avec une repentance, puis dire, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, qu'il y a tant de journées où j'ai une mauvaise attitude. Je m'emporte pour rien, je me mets en colère pour rien, je suis toujours de mauvaise humeur. Je te demande pardon, Seigneur. Des fois, on dit à quelqu'un, je l'aime, mais dans le fond, on a un couteau derrière. Seigneur, je te demande pardon ce matin. Seigneur Jésus, viens purifier nos cœurs, viens purifier mon cœur ce matin. Tu vois le cœur de chacun de nous ce matin. Chaque personne ce matin, mon Dieu, homme, femme, couple, famille, tu les vois ce matin. Tu vois chacun de nous, Seigneur, ce matin. Viens purifier nos cœurs ce matin. Moi, je veux être comme Jésus. Alors, repartez avec cette pensée-là ce matin, comme Jésus. Comme Jésus, moi, je veux être comme Jésus. Comme Jésus. Répète-le, change mon cœur ce matin. Seigneur, je veux prendre de l'altitude. Je ne veux pas rester comme un petit poussin au sol. Non, je veux m'élever dans le ciel comme un aigle. Change mon attitude, Seigneur, que mon attitude soit comme celle de Jésus. Engage-toi ce matin. Là où tu es ce matin, à ta place, engage-toi ce matin à vouloir dire, Seigneur, je veux marcher comme tu as marché. Puis il va y avoir toute une différence autour, il va y avoir tout un changement autour de nous. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Père, je te prie pour ton Église. Je te prie pour nous, Seigneur Dieu, chaque croyant, chaque couple, chaque famille, Seigneur. Je te prie pour ton Église. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous dans l'humilité pour qu'on puisse conserver cette belle unité-là, Seigneur. Qu'on puisse avoir un impact pour toute personne que tu vas emmener ici, toute personne que tu vas envoyer, Seigneur. Qu'on puisse avoir un impact. Qu'on puisse apprendre à connaître, Seigneur Dieu, nos frères, nos sœurs. Qu'on puisse apprendre, Seigneur Dieu, à venir chasser, enlever, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, à se vider de tout ce qui est mal, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est pour la chair, mais qu'au contraire, on soit rempli de l'Esprit, qu'on puisse être rempli de puissance, Seigneur, qu'il n'y ait aucun obstacle qui vienne devant nous pour qu'on puisse avoir un impact autour de nous, un impact dans Repentigny, un impact dans Lanaudière, un impact, Seigneur Dieu, avec les gens que tu places à côté de nous. Seigneur, ce matin, je te dis merci encore pour ta parole. Je veux vous encourager ce matin. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que votre attitude soit celle de Jésus-Christ. Pas pour notre propre gloire, absolument pas, mais pour la gloire de Jésus-Christ, pour la gloire de notre Dieu ce matin. Merci Jésus. Amen.